Bonjour à toutes et à tous. Alors ce matin, effectivement, culte tous ensemble. Et on va poursuivre notre parcours dans l'évangile de Marc. Et l'évangile de Marc est un, on l'a dit, on l'a souvent dit, hein, j'espère au moins que si vous devez retenir une chose, c'est l'évangile de l'action. C'est l'évangile où tout ce que Jésus va faire, ou tout ce que Jésus va dire, c'est vraiment dans l'action et dans l'enseignement. Il va pas y avoir de grands discours. On est dans l'action, l'interaction, le toucher. Marc, il présente un changement radical. Marc, il est en train de dire, il y a eu irruption du royaume dans le monde. Et on continue donc ce matin. On va continuer ce matin notre traversée, j'allais dire, de l'évangile de Marc dans les pas de Jésus. On avait vu tout ce qu'il avait déjà été fait. Et avant de commencer le texte, c'était un peu comme l'introduction qu'a fait Josué. Qui est le plus grand? Qui est le plus puissant? Qui va nous intéresser? Et finalement, quelque part, qui on va recevoir? Est-ce que chez nous, on va recevoir facilement, dans nos cercles, dans nos milieux, même nos milieux évangéliques, hein? Est-ce qu'on va recevoir les personnes qui vont entrer de la même manière, peu importe leur, j'allais dire, leur abus extérieur? On avait vu, hein, enfin, je n'ai pas vu, mais j'avais vu un reportage qui disait que l'habit faisait le moine, en fait. Parce que, inconsciemment, les personnes vont avoir plus de respect pour les gens en cravate, je dis pas ça pour moi, mais qu'une personne qui va pas l'avoir. Il y avait des grandes tolérances, sociétales qui nous font accepter les choses plus facilement par quelqu'un qui est en position de pouvoir que quelqu'un qui ne l'a pas. Et les positions extérieures du pouvoir, bien habillé, belle voiture, belle montre. Et on est sensible à ça. C'est comme ça que la société nous a câblés, j'allais dire. Alors, ça marche pas. Si, non. Oui, voilà. Qui aimeriez-vous recevoir? Là, c'était un peu une question que je posais. Voilà, on aimerait recevoir nous nos familles, nos amis, les personnes qu'on aime bien. Ça, c'est les gens qu'on aime recevoir, hein. On les aime, les gens de l'Église aussi. Et qui on aimerait recevoir? Alors ça aussi, c'était une question posée. Qui on aimerait recevoir chez nous? Une star qu'on aime bien, un joueur de foot qu'on aime bien, un homme qu'on respecte, une femme qu'on respecte. Est-ce qu'on aimerait vraiment recevoir? Généralement, c'est un peu ce genre de choses, hein, quand on demande. On va pas demander à recevoir notre voisin qu'on a du mal avec lui ou la personne qu'on ignore dans la rue. On va demander à recevoir des personnes qui nous attirent l'œil. Et comment devons-nous accueillir? Qui est le plus grand? Et ça, c'est la leçon que Jésus va donner ce matin. Alors, c'est un passage très très court. Et de temps en temps, j'interrogerai les enfants s'ils suivent, mais il y en a beaucoup qui colorient déjà. Mais de temps en temps, si j'interrogerai, sinon les plus grands. Parce que Christ, lui, il va révolutionner l'accueil. Il va modifier la perception. Et la nôtre, et celle des disciples. Il va voir qui est le plus grand pour lui. Et Christ, il va accueillir d'une manière tout à fait inédite. Même dans le contexte où il habitait, même dans le contexte où il vivait. Parce que nous, on va regarder à l'œil et lui va regarder au cœur. Et ce matin, on va poursuivre donc cet évangile. Donc, je vous propose de lire simplement les quelques versets de Marc 9, 33 à 37. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda: De quoi discutiez-vous en chemin? Donc il parle à ses disciples, hein. Mais ils gardèrent le silence, car en chemin ils avaient discuté entre eux de savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit: Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et serviteur de tous. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit: Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Voilà, je vais simplement prier courtement et on va étudier ce texte ensemble. Oui, Seigneur, merci pour le privilège de lire ta parole. Merci pour le privilège de l'étudier et de savoir ce que tu vas encore nous apprendre, ce que nos cœurs ont besoin d'être changés. Merci pour nous avoir inspiré chacun, Seigneur, et que l'on retienne ce que tu veux que nous retenions encore ce matin. Gloire à ton nom, Père. Amen. Donc on l'a vu, hein, le contexte, Jésus vient de chasser un démon, il s'est battu contre l'incrédulité des cœurs, les personnes qui avaient du mal à croire, il a regardé nos cœurs comme on est difficile à saisir qui il est vraiment. Hein, on est dans la passage charnière de Marc où il présente Jésus comme le Messie. Il annonce sa mort et sa résurrection prochaine. Il est un Messie, un sauveur différent. Tout ça, c'est ce qu'on a vu. Et on est en chemin avec lui. Alors, on ne sait pas combien de distance ils vont parcourir. Mais voilà, ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Voilà, ça, on sait qu'ils traversent. Ça, c'est ce qu'on avait vu avant. Hein. Il va dire ce qu'il est venu quoi faire, venu donner sa vie. Et ils arrivèrent à Capernaum. Voilà, ils arrivent à Capernaum. Et Jésus leur pose une question simple. Et c'est le verset 33, « Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, quelqu'un qui devait l'accueillir, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Jésus va poser une question très simple à ses disciples. Très simple. Une fois installé dans la maison, il dit, « Vous avez parlé de quoi ?» Est-ce que Jésus ignorait de quoi ils avaient parlé ? La Bible ne dit pas, mais on peut supposer qu'il savait de quoi ils avaient parlé. Mais il voulait une réponse de leur part. Il dit, voilà, je vous pose cette question, vous discutiez de quoi? Vous discutiez quoi? Vas-y, dis-moi ce que t'as sur le cœur. Dites-moi ce que vous avez sur le cœur. Finalement, ça nous m'interpelle un peu dans le sens où Jésus a attendu parfois nos réflexions sur le chemin. Il a entendu mes questionnements. Il a entendu comment je pouvais ressasser. Et il est prêt aussi à t'entendre. De quoi as-tu parlé? Viens me le dire, en fait. Ne discute pas entre vous, ne discute pas tout seul, mais viens me dire. Je t'ai déjà entendu, mais parle-moi. Il est prêt à nous laisser parler, il est prêt à nous laisser questionner. Jésus n'interdit pas les questions, il n'interdit pas parfois d'être surpris ou en colère. On va pas refaire les psaumes, on va pas faire Genèse. Des fois, les gens sont abattus. C'est pas le cas ici, mais on discute, on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Comment comprendre ce qu'on est en train de vivre? Et Jésus, il est prêt à nous dire, oui, ben viens m'en parler à moi. Viens m'en parler, viens me questionner. Moi, j'ai la réponse, moi, j'ai un enseignement, mais viens me voir. Et là, c'est un peu ça qui interpelle les disciples qui avaient discuté sûrement entre eux, que Jésus avait dû entendre ou savoir, puis dit, de quoi voulez-vous parler? Allez-y, dites-le-moi, parce que visiblement, vous m'avez exclu de quelque chose, mais je voudrais savoir. Est-ce qu'on n'a pas parfois aussi cette volonté de ne pas mettre Jésus dans nos réflexions et après de tirer nos propres conclusions? Et c'est pour ça qu'il dit qui est important et Jésus va nous l'enseigner. Alors avec ces quelques versets, il donne un grand enseignement. Et là, j'avais une question pour les enfants, mais aussi pour les plus grands. Où se passe l'action? On vient de le lire. Hein. Oui? Non? Oui. Où se passe l'action? L'action se passe à Capernaum. Donc on a fait un voyage, il y avait eu un chemin, et là il se dit, voilà, on est posé dans la maison. Maintenant, dites-moi ce qui se passe. Maintenant, dites-moi ce qui se passe. Qui est le plus grand? Et à question toute simple, hein. Eh ben, il y a un silence. Il y a un simple silence. C'est assez incroyable, hein, la manière dont, dans Marc 9, 34, donc la suite. Mais ils, donc les disciples, gardèrent leur silence. Car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Donc on voit, entre eux, ils ont discuté, hein. Et du coup, ils répondent pas. Ils répondent pas, ils gardent le silence. Alors on peut s'interroger de pourquoi, parce que sûrement, ça faisait déjà plusieurs fois que Jésus les enseignait. On a vu des fois la difficulté qu'ils ont de comprendre. Donc peut-être qu'ils avaient pas envie de dire à Jésus ce qu'ils avaient dit. Peut-être parce qu'ils avaient un peu honte d'avoir discuté d'une grandeur face à la grandeur de l'homme qui suivait. Ils avaient peur de sa réaction. On voit que de temps en temps, les disciples, ils ont peur de le questionner. Hein. Il était dit juste avant, ils ne comprenaient pas quand il parle de la mort et de sa résurrection, mais ils avaient peur de le questionner à ce sujet. Donc, il y avait aussi une certaine... Parfois, ils avaient peur de la réponse, peut-être, mais ils avaient peur aussi d'avancer sur un chemin qu'ils connaissaient moins. Ils n'osent pas questionner, ils n'osent pas répondre. Ils connaissaient peut-être Jésus, ils se disent, mince, là, il y a quelque chose qu'on a peut-être mal fait ou on n'a pas envie de lui dire parce que c'est parfois honteux. Et fatalement, ça va nous montrer notre propre réflexion de cœur. Ils sont en train de dire, aïe, zut, il y a un truc qu'on a oublié. On a oublié de l'inclure dans nos discussions, on a oublié de voir ce qu'en pensait le maître qu'on a décidé de suivre. Parce qu'ils ont décidé de suivre ce maître, même si c'est lui qui les a choisis, de temps en temps, il dit « Allez-y, vous irez où ?» Ben, on veut te suivre, tu as les paroles de vie. Plusieurs fois, ils ont accepté de rester à côté de ce maître. Et là, ils se disent « On l'a mis en dehors de notre discussion, et fatalement, ça va nous montrer ce qu'on a dans notre cœur. » Et Jésus, il n'est pas un maître mauvais, il n'est pas un maître méchant, mais avec douceur, mais avec vérité, il veut les reprendre. Il veut changer nos cœurs et nos pensées. Il veut ce matin changer ton cœur et tes pensées sur un sujet. Parce que, en lisant et en préparant, je me dis, Jésus, il aurait pu les interrompre pendant qu'ils discutaient. Il aurait pu dire, vous discutez de qui est le plus grand? Ah non, attendez, je vais vous donner la leçon de qui est le plus grand. Et il aurait pu le faire là, en chemin. Il les a laissés faire. Il les a laissés peut-être se chamailler, on ne sait pas trop, qui est le plus grand. À mon avis, tout le monde veut l'être. Personnellement, il y a une discussion peut-être d'ego, ça j'en sais rien, mais je connais assez mon cœur pour savoir que ça a peut-être passé comme ça. Forcément, je suis le plus vieux. Non, moi j'étais là-haut, toi t'y étais pas. On a vécu plus de choses, forcément. Et on est dans l'optique où ils ont un messie politique. Voilà, c'est aussi ça. Dans leur contexte, Jésus va devenir le maître, le roi d'un nouveau royaume. Mais maintenant, en fait, de leur époque, bientôt. Donc, d'être sympa avec lui, ça donne un petit poste sympathique, un ministre ou quelque chose comme ça. C'est bien, du coup, d'être proche de lui. Donc, si on est plus grand, on va être meilleur. Il y a aussi ces pensées-là. C'est pas moi qui le dis, c'est les exégètes de la parole, voilà, qui ont réfléchi aussi à voir leur conception du Messie qu'il était. Et cela, ça met un cœur. Mais Jésus, voilà, il dit, ok, discutez de ça. Et à la maison, au calme, il leur demande de quoi ils ont discuté. Et là, ils répondent pas. De quoi avez discuté les disciples, finalement? S'il y en a qui ont entendu, ils avaient discuté de qui était le plus grand. Eh oui, moi je suis plus grand spirituellement que mon frère, ma sœur, forcément je sais mieux. On l'a déjà parfois entendu, même dans l'église. Moi je suis plus grand parce que de toute façon je suis converti depuis plus longtemps. Donc forcément, je suis forcément plus grand que mon frère. J'ai accès à un savoir qui lui est supérieur. J'ai toutes ces années avec le Seigneur, je peux donner des leçons. Ce qui est vrai, mais ça dépend de l'état du cœur. De tout âge, il y en a, savent mieux lire que d'autres quand ils sont plus petits. Ah, je sais mieux lire que lui, je suis meilleur. Moi, je sais mieux parler l'allemand, je suis le meilleur. Je suis le plus grand. Oui, c'est pas vrai, je sais pas parler allemand, moi, mais voilà, mais je suis supérieur. Je suis le meilleur, je cours le plus vite de la classe. J'ai marqué le meilleur but. Et en fait, ça nous rend supérieurs. On a toujours envie de se comparer à d'autres. Pour savoir que dans le groupe, qui va émerger? Ah, ça va être moi parce que on est tous uniques. Ça, c'est vrai. On a tous des dons que le Seigneur nous a distribués. Ça, je veux le croire. Et c'est pas ça que Jésus va remettre en question. Il veut que si on le sort de l'équation, ça sera que notre cœur qui va choisir. Alors que si on inclut Jésus dans le questionnement, ça sera quelque chose fait par amour pour d'autres. On l'a vu, comme Yvan nous a partagé, l'échantillon avancé, il y avait un maître de chantier et les gens se sont soumis en disant « il connaît mieux ». Mais là, c'était fait dans l'amour pour que tout le monde puisse progresser. C'est pas quelqu'un qui est venu en dictateur qui n'y connaît rien puis qui a dit « faites ce que moi je dis » et en fait, je connais pas. Et du coup, rien n'avance. Mais là, les disciples, ils savent qu'il y a eu quelque chose de mal. Et on a ces tendances aussi parfois. On va avoir des supériorités qu'on va se trouver dans notre cœur. Et Jésus questionne. Et dans l'histoire, du coup, là où on est, qui est présent dans le lieu où on est? On est à Capernaum et il y a qui dans l'histoire? Alors ça, c'était pour les enfants, mais je vois qu'ils sont pas concentrés. Qui est présent dans l'histoire? Et Jésus et les disciples. Jésus et les disciples sont là. Et ils n'ont pas de réponse, voilà, les disciples, ils restent silencieux. Et qui est le plus grand? Jésus va maintenant les enseigner. Marc 9, 35-37. Alors, Jésus, il s'assit, appela les douze et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, quiconque reçoit mon nom, un de ces petits enfants, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Voilà, Jésus, il laisse un petit silence. Il prend le temps de s'asseoir, il les appelle. Et là, il va les enseigner par une illustration, par une image, par quelque chose qui va les frapper et qui nous frappe aussi. Jésus va dénoncer la manière de penser du monde. Et il va instaurer la nouvelle manière de penser. Il n'est pas en train de critiquer les disciples en disant « Vous avez mal fait ». Ils n'ont pas mal fait, ils ont fait selon ce qu'ils connaissaient en fait. On a toujours raisonné comme ça. Dans le monde autour de nous, on raisonne de cette manière. Et on en raisonnera toujours de cette manière. Là, il est en train de dire « Ok, ça c'était votre manière de voir, qui est le plus grand ?» Moi, je vais vous dire comment on réfléchit en fait. Comment je suis en train d'inaugurer quelque chose de nouveau. Vous savez, c'est aussi ça, Marc. Hein. On inaugure quelque chose de nouveau. C'est le royaume qui fait irruption dans l'histoire du monde. C'est le royaume de Dieu qui vient en la personne de Jésus-Christ. Et il est en train de dire, moi, je vais bouleverser tout ce qu'on connaît jusqu'au bouleversement final qui sera la restauration lors de son retour. Mais là, il dit, voilà, moi, maintenant, comment ceux qui me suivent, ceux qui me reconnaissent comme maître, doivent penser et se faire serviteur de tous, d'être le dernier. Alors, on est dans une société, plus encore là à l'époque, hein, aujourd'hui aussi, mais qui était marquée par les différences de statut social. C'était très important, le statut social. Et souvent, d'ailleurs, Jésus va reprendre les pharisiens qui se mettent des belles robes, qui prient à voix haute dans les coins des rues. Ils sont tellement importants. Ils se mettent assis au premier rang. Ils sont tellement importants, ces gens-là. On va pas se mettre assis derrière, ça n'a aucun intérêt. Et souvent, il va les reprendre en disant « Ça, c'est de l'orgueil. Moi, ce que je veux pour ceux qui me suivent, c'est que vous soyez serviteurs. Et les derniers. » Alors bon, nous, on se dit « C'est la Bible, on connaît déjà un peu. Nos enfants, enfin nos parents nous ont peut-être éduqués là-dessus. Oui, sois pas le premier sera le dernier. Et le dernier sera le premier. » Voilà, on a peut-être été encouragé à pas toujours vouloir le meilleur pour ceux qui ont grandi dans des familles chrétiennes. Donc on se dit, oui, on connaît tout ça, mais imaginez l'impact sur les disciples qui n'avaient jamais connu ça, en fait. Qui étaient là toujours à essayer d'être, de s'approcher dans la sainteté de Dieu pour être gardé dans l'alliance. Fallait faire plein de choses, fallait savoir plein de trucs. Et là, on leur dit, non, ce qu'il faut être, c'est être serviteur de tous. Être le dernier. Imaginez dire ça aujourd'hui dans une école de commerce, une école de formation de cadre, être le dernier, être serviteur de tous. Ça passerait pas, comme ça a du mal à passer, sûrement aussi, encore aujourd'hui. Les disciples, eux, ils voulaient établir une chaîne de commandement, en se disant, non, toi, t'es moins bon, t'as des positions, voilà. Mais j'ai leur maître, qui est leur maître, il leur dit, faites-vous serviteur. Alors bon, comme plan de carrière, c'est pas génial. Être serviteur de tous. Pour citer une personne que je connais bien, ma fille, elle m'a dit, je suis pas ta serviteuse. Je lui avais demandé de débarrasser quelque chose, elle dit, mais je suis pas ta serviteuse. Et c'est vrai, elle était pas ma servante, déjà, mais bon. Mais elle aime pas servir. On n'aime pas servir les autres. On n'aime pas être celui qui va être au service, forcément. C'est pas de cœur. Un cœur transformé, oui, ça va être plus facile. Mais un cœur qui n'est pas transformé, non, il n'a pas envie. Et bon, elle laisse s'exprimer avec ses termes à elle, mais on est souvent comme ça. Ben non, j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie d'être serviteur, moi. J'ai pas envie de faire les choses pour les autres. Et non, c'est... Je dois être en avant, c'est les autres qui doivent me servir. Et à l'époque de Jésus, c'était pareil que maintenant. Hein. Le cœur, il n'a pas changé. Mais Jésus, il est en train de leur dire, c'est votre cœur qui a besoin d'être changé. Qui est le plus grand? C'est pas qui est le plus grand dans le monde. Qui est le plus grand pour celui qui me sert? Pour celui qui me sert, celui qui est le plus grand, c'est celui-là qui sert les autres, avec amour. Aimes-tu servir les autres? Il est en train de leur apprendre les choses. Et pour aller même plus loin, Jésus va faire un geste, hein, c'est incroyable. Il va prendre un enfant qui était là, parce que la maison, on suppose, c'était une maison des amis de Jésus. Il y avait un enfant qui était là. Et il va le placer au milieu. Alors dans une société où les enfants étaient plutôt généralement classés par ordre, de l'aîné au plus jeune, là il va le placer au milieu d'eux. Et les enfants, ils représentent, hein, dans la Bible, les gens qui sont les cœurs les plus simples, ceux qui vont aimer Dieu sans trop se poser de questions. Ils vont être prêts à croire. Ils vont pas prétendre à plein de choses. Ils vont rester dans une simplicité d'une relation. Et la Bible nous encourage à avoir un cœur comme des petits-enfants, pour croire tout simplement, sans douter. Et si on prend un enfant, puis on lui dit « Viens, je t'amène quelque part », il va nous suivre. Bon, quand il grandit, plus il pose de questions. Ben, au départ, non. Quand ils sont tout petits, un enfant, quand on prend soin de lui, il le sait. Il va faire confiance à ses parents ou personne qui prenne soin de lui. Naturellement, il va aller à la confiance. C'est en grandissant qu'on va commencer à douter et à mettre des barrières. Et il est en train de dire à des personnes âgées, pas vieilles, mais qui sont plus grandes que des enfants, des disciples, il leur dit, faut être comme ça. Faut être comme des enfants. Parce qu'en fait, c'est ce cœur-là que je recherche. Je veux, pour être serviteur. Car non seulement Jésus invite ses disciples à être serviteurs, mais également à croire comme des petits-enfants. Avec un cœur vrai, sincère, crédule dans le bon sens. C'est-à-dire croire que Dieu agit. Jésus annonce également que Dieu lui-même est reçu par celui qui reçoit Jésus. Et ça, c'est assez incroyable. Il est en train de dire, celui qui me reçoit ne reçoit pas seulement moi, mais celui qui m'a envoyé. Donc il est en train de dire, la relation que vous voulez créer par des hiérarchies, en étant serviteur, en ayant un cœur simple, vous avez une meilleure relation, une plus grande relation, une relation que personne n'a jamais eue jusqu'à présent, à part certaines personnes dans les Écritures, parce que je vais instaurer quelque chose de nouveau, en mon nom, parce que je vais vivre, parce que je vais payer. Et il dit ça, c'est mieux que tout le reste. Alors c'est vrai que c'est difficile, encore aujourd'hui, hein, d'avoir une relation, le Saint-Esprit qui vit en nous, que c'est mieux qu'un million de dollars. C'est difficile des fois, ou un million d'euros. C'est difficile à comprendre, c'est mieux qu'une belle voiture, c'est mieux qu'une belle situation. Oui, on va dire souvent non. Non, c'est pas mieux. Ça veut dire que l'un n'empêche pas l'autre. Mais je dis c'est mieux. Jésus est en train de dire c'est ça qui vaut plus que tout le reste. Voilà qui est le plus grand. Et finalement, Jésus, pour illustrer ce propos, il a accueilli qui ? Il a accueilli un petit enfant. Ce qui change beaucoup, hein. Les petits-enfants étaient pas forcément, on le verra plus tard, ou peut-être dans Marc, mais en tout cas dans les autres évangiles, on voit les disciples ralentissent les petits-enfants à un moment donné en disant « Oh, vous allez pas embêter le maître avec vous, les petits-enfants, là. » Et Jésus va leur dire « Laissez venir à moi, les petits-enfants. » Et Jésus va brise les codes de la société qui est en place, comme il brise les codes de notre société, en disant « Qui est le plus grand ?» Eh ben, c'est pas celui qu'on croit. En quelques versets, Jésus y déconstruit l'approche humaine, la conception de la hiérarchie et de l'importance sociale. Il dit pas que c'est pas bien d'être riche, il dit pas que c'est pas bien d'être un directeur ou d'avoir une bonne situation. Il dit faites attention à ce que cela ne se passe pas de la même manière quand vous êtes au service de tous. Il dit on peut être un chef d'entreprise et être serviteur. Il y a quelqu'un qui disait, un homme de Dieu qui est assez important, Henri Blocher, pour ceux qui le connaissent, il disait, il avait fait une belle prédication, un bel enseignement, et quand il est descendu, il a pris le balai, il a commencé à balayer avec l'équipe en place. Il a dit, ça m'a encore plus touché que ce qu'il avait dit. Parce que tout érudit qu'il est, il a pris le temps d'être au service de tous. Et il n'était pas le seul, il y a plein d'exemples comme ça, au service de tous. Les gens disaient, pour reconnaître un serviteur de Dieu, il est au service. Plus que de grands diplômes, plus que de grandes paroles, il est au service. Regarde son service, regarde comme il est, comme il aime, et là tu auras, c'est les fruits de l'esprit, c'est les fruits du cœur. Et Jésus, il inaugure ce royaume où l'ordre social ne sera pas posé sur autre chose que la foi en lui et les œuvres faites pour, en son nom et pour sa gloire. Il amène ses disciples à vivre simplement comme des enfants, un cœur transformé. Et à vivre une vie de service. Et c'est ce qu'ils vont vivre. Alors, on n'a pas tous les disciples, mais quand on regarde les livres des Actes, alors il y a encore quelques transformations dans Pierre, mais voilà, on a des gens qui sont morts au service des autres. On a des gens qui ont eu le cœur qui a été transformé. Et aujourd'hui, on l'a déjà par le Saint-Esprit. Et il dit, voilà comment vous devez vivre. Cela doit plaire à Dieu. Alors, est-ce qu'on en est capable? Est-ce que tu en es capable? Apprendre à servir. Et j'avais un bel exemple hein, des gens qui ont passé 15 jours à les servir. Alors on dit, c'est rien, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà au service de Dieu. Et la valeur qu'on met nous-mêmes sur des choses, Dieu ne met pas la même valeur, parce que c'est toujours l'état du cœur. Il dira même celui qui donne un verre d'eau ça coûte pas grand-chose, en tout cas chez nous, on n'est pas dans la valeur des choses, ni dans le temps forcément passé, mais dans la qualité du cœur et dans le cœur de servir. Et ça, ça déconstruit toute notre approche de la vie de disciple. Comment j'aime les autres, comment je les sers, et qui est le plus grand ? Celui qui est serviteur. Lui qu'on a chanté, qui était roi serviteur. Alors, de l'histoire humaine, ça n'existe pas, un roi serviteur. Il a fallu un roi serviteur unique Celui que Dieu a donné en son Fils, c'est le seul qui a été roi, qui a été serviteur. Le seul qui est mort pour nous ouvrir la vie. Apprendre à servir comme Jésus aime. Et par le Saint-Esprit, tu vivras une vie qui est agréable à Dieu. Et que c'est un investissement pour le royaume qu'il a lui-même déjà inauguré. Et voilà ce qu'il nous propose en quelques versets. En quelques versets, de changer notre cœur face à qui est le plus grand. À ne pas nous laisser séduire, parce que nous on met dans la grandeur, dans la puissance, dans l'importance. Jésus va regarder au cœur et il va même prendre un petit enfant. Je voulais juste vous laisser avec ça et je vais conclure par la prière. Voilà. Jésus nous a donné un exemple à suivre parce que lui-même a été serviteur. Lui qui aurait pu ne pas servir, lorsque lui il était effectivement le plus grand. Lui-même va se donner un exemple parfait de se soumettre à son Père et de payer le prix. Payer notre dette. Et d'ici, moi je l'ai fait. Mes disciples sont invités à le faire.